10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
On disait pour prouver sa détermination, je continue de faire la guerre et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure. Contre le Covid-19, c'est comme si le dernier quart d'heure se prolongeait comme un jour sans fin. Les vaccins arrivent, mais voilà qu'une nouvelle version du virus se répand, plus véloce, plus contagieuse encore. Alors, il faut une fois de plus le dire, hein, en préambule, depuis un an, gouverner relève presque de la mission impossible. Pourtant, il faut aussi, et vous allez encore le faire ce matin, répondre aux questions et aux inquiétudes nombreuses des Français. Dans quelques jours, vous aurez en main des éléments concrets sur le couvre-feu et les effets des rassemblements des fêtes de Noël. Vous nous direz aussi donc quels sont les tours de vis qui sont envisagés. Olivier Véran, on vous dit déterminé, certains disent même obstiné. En ce moment, ce sont aussi des qualités. Hein. Pourtant, il nous a fallu que quelques jours pour passer de la méthode dite de la lenteur assumée pour la campagne de vaccination, pour vanter le concept du accélérer, simplifier, amplifier. Un mea culpa qui ne dit pas son nom vraiment à propos du décollage de travers hein, de la fusée vaccination et après une vraie fausse colère du président de la République contre une stratégie, un calendrier qu'il avait quand même lui-même validé. Jean Castex a dit 2021 sera l'année de l'espérance. Le même jour, parlant d'économie, Bruno Le Maire a dit le plus dur est encore devant nous. Ce qui est certain, c'est qu'il vous faut convaincre des Français qui ont du mal à faire confiance au gouvernement malgré sa totale mobilisation. Avec Cécile Cornudet des Échos, Damien Fleurot de CNews, la question vous est d'emblée posée. Nous sommes en guerre, mais savons-nous la faire ?
Oui, nous savons la faire et nous avons des armes nouvelles, à savoir le vaccin. Le vaccin est dans l'histoire de l'humanité ce qui a permis à l'homme, à plusieurs reprises, de reprendre le contrôle sur un environnement qui lui était devenu hostile. Je ne vais pas vous citer la totalité des virus que nous avons vaincus dans l'histoire de l'humanité grâce à la vaccination, peut-être quelques-uns, la variole dont on a oublié jusqu'aux mémoires, mais qui touchait 60% des populations qui la contractaient, qui en tuait un porteur sur trois et qui laissait les personnes qui ne mouraient pas défigurées pour la vie. Nous avons vaincu la rougeole, presque, qui circule, mais à très faible quantité, grâce à la vaccination. Nous avons déjà, je dirais, dans l'histoire de l'humanité, identifier des armes. Cette fois-ci, nous avons identifié une arme en moins d'un an. En moins d'un an. Et ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Et nous disposons de millions de doses de vaccins qui nous sont livrées progressivement en France, en Europe et dans la plupart des pays
c'est
du monde.
C'est ce qui explique la méfiance, pardonnez-moi. Hein. Oui. Cette rapidité d'élaboration d'un vaccin par rapport à d'autres qui ont mis beaucoup plus de temps, c'est ce qui explique aussi la méfiance de certains.
Et pardonnez-moi, je suis médecin dans le civil. Je n'ai jamais été inquiet ou défavorablement surpris lorsque j'ai eu l'occasion d'annoncer, je suis neurologue, on soigne des maladies extrêmement graves, et quand un traitement peut être identifié et que je le propose à un patient, jamais le patient ne m'a dit « mais votre traitement, vous l'avez trouvé en combien de temps ?» Ce qui est essentiel, c'est est-ce que le traitement est efficace ? Est-ce qu'il est sûr ? Est-ce qu'on en dispose ? J'ai une réponse qui est oui à ces trois questions. C'est donc une bonne nouvelle, une excellente nouvelle.
Et à côté de ça, une moins bonne.
Olivier Véran, vous parlez du vaccin, on y reviendra tout à l'heure. Et ça pose d'autant plus de questions sur la stratégie du gouvernement. Mais il intervient, ce questionnement, au moment où une nouvelle forme du virus fait son apparition, le variant anglais, ultra contagieux. Dans le cluster de Marseille, hier, on dénote au moins un Français qui est touché. L'Angleterre dit il est hors de contrôle. Comment nous on l'affronte, comment on est sûr qu'il ne circule pas à bas bruit et qu'on n'ait pas une fois de plus à courir après.
Qu'est-ce qu'on sait sur ce nouveau virus ?
D'abord, ce qu'on sait, c'est que le coronavirus, comme la plupart des virus, il peut être amené à muter. Qu'est-ce que c'est qu'une mutation ? C'est quand le gène, les gènes du virus, le génome, subit des modifications aléatoires, hasardeuses. Ça arrive d'ailleurs chez l'homme aussi, donc ça arrive aussi au virus, et qui fait que ça peut changer sa structure. Parfois, il y a des mutations qui rendent le virus plus fragile. Parfois, il y a des mutations qui peuvent rendre le virus plus vigoureux. Ce que nous savons, et je m'en suis entretenu encore avant-hier avec le ministre anglais de la Santé, c'est que dans la région du Kent, en Angleterre, là où il y avait eu très peu de cas jusqu'à présent, a émergé, peut-être chez un patient immunodéprimé, qui peut être un climat favorable aux mutations du virus, a émergé un variant qui a quasiment tout en commun avec le variant que nous connaissons, sauf quelques mutations génétiques, et qui rend ce variant, donc ce virus, plus contagieux, 30, 50, jusqu'à 70%, nous disent les premières études, nous verrons. Et ce variant, il a donc commencé à se disséminer dans un territoire où il n'y avait pas, entre guillemets, de concurrence avec un autre virus, puisque le virus circulait très peu. Ça a provoqué une vague épidémique locale qui s'est ensuite, par contiguïté, répandue vers la région de Londres. Et ce virus, ce variant, a pris, je dirais, le pouvoir sur le variant qui jusqu'ici frappait l'Angleterre, jusqu'à représenter plus de 60% des cas en Angleterre. Concomitamment à cela, l'Angleterre a assisté à une vague épidémique extrêmement forte. Il y a plus de 1000 morts par jour en Angleterre, les hôpitaux sont débordés. La situation là-bas est, je le dis, catastrophique. Et l'Angleterre a dû confiner totalement, de même que l'Écosse. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce variant ? Nous ne savons pas à ce stade si lorsque le virus variant viral circule dans un pays qui a déjà où l'autre souche classique du virus circule, nous ne savons pas s'il peut, comme en Angleterre, prendre le pouvoir et devenir le virus majoritaire ou non. Mais c'est une possibilité. Et moi, vous l'avez dit, je suis obstiné, je suis aussi très vigilant surtout et très, très actif pour la santé des Français. Et donc je considère toujours l'hypothèse la plus grave comme étant l'hypothèse sur laquelle nous devons, à partir de laquelle nous devons travailler.
Mais l'Angleterre sait qu'elle a le variant parce qu'elle le traque. Elle a des machines qui séquencent le virus que nous n'avons pas. Donc, est-ce qu'on sait pourquoi on n'en a pas ? Combien on en a comparé aux Anglais ? Est-ce que ce retard est rattrapable ?
Alors, vous avez deux manières d'identifier ce variant. Imaginez quelqu'un qui serait positif en PCR en France. Dans un cas sur trois, cette PCR, elle a été faite sur une plateforme PCR particulière qu'on appelle la thermofisher, qui permet de suspecter la présence du variant parce que le résultat présente une caractéristique assez particulière. Donc ça, c'est déjà un premier moyen d'identifier la possibilité que quelqu'un qui ait le virus ait le variant.
Sur les antigéniques, ça ne marche pas.
Dans un cas sur trois, nous avons les PCR. Sur les antigéniques, ça ne fonctionne pas. On peut détecter le variant, mais on ne peut pas savoir que c'est le variant. Ensuite, le moyen le plus sûr, c'est ce qu'on appelle un séquençage génomique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez la lecture de la partition précise du génome du virus. Vous regardez précisément quels sont les
gènes. Les Anglais le font systématiquement.
Eh bien, nous le faisons, nous l'avons fait cette semaine, jeudi et vendredi, sur la quasi-totalité des tests PCR, mais aussi un certain nombre de tests antigéniques positifs, pour avoir une cartographie un jour donné de l'état de la circulation du virus.
Donc on est équipé pour pouvoir repérer ce virus.
Nous avons des plateformes de séquençage génétique. Il en existe dans ce qu'on appelle les CNR, à Santé publique France, dans des hôpitaux, dans des instituts de recherche. Le monde de la biologie moléculaire s'est mobilisé pour pouvoir faire cette cartographie du nombre de cas de variants un jour donné dans notre pays.
Et il y a des nouveaux clusters, du coup, sur notre territoire ce matin. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, en plus de Marseille, en plus de Bagneux, il y a de nouveaux foyers?
Alors, je ne peux pas vous dire qu'il existait des nouveaux clusters. J'ai des données qui sont extrêmement préliminaires. Donc, je vous invite à prendre avec la plus grande précaution de scientifiques qui m'ont contacté hier et qui me disent que sur les 1000 premiers cas positifs qu'ils ont fait passer en technicage en biologie moléculaire, il y a environ 10 cas de variants, c'est-à-dire aux alentours de 1%, ce qui pourrait, sur un nombre qui est insuffisant aujourd'hui, je le redis avec toutes les précautions d'usage, insuffisant pour pouvoir en tirer des conclusions. Nous aurons des résultats plus importants aujourd'hui, demain et mardi, qui nous permettront d'avoir une idée de l'état de circulation. Je le redis, ce n'est pas parce que nous identifions un cas de variant que ce cas de variant est amené à diffuser localement. Mais vous avez parlé de clusters, c'est-à-dire des grappes de cas. Nous avons identifié effectivement quelques clusters de ce variant. Il y a actuellement à l'étude cette situation à Marseille, où une femme qui était originaire d'Angleterre, qui était rentrée avant les fêtes, a été diagnostiquée en PCR et confirmée en génétique comme porteuse du variant. 40 et quelques personnes de son entourage, dit cas contact, ont été testés. 24 d'entre eux ont été testés positifs. Je ne peux pas vous dire à ce stade si ces 24 personnes sont porteuses du variant ou si c'est une autre souche du virus dont il souffre. Nous aurons également les résultats pour cela. Ce qui est important de savoir, c'est que avant même de faire cette cartographie, le président de la République, le Premier ministre ont pris les bonnes décisions. Je vous rappelle que le 20 décembre, et c'est une première, nous avons fermé totalement la circulation entre l'Angleterre et la France.
Elle n'est pas totalement hermétique sur le plan de la fermeture, cette frontière, puisqu'on nous dit encore qu'il y a des résidents qui peuvent venir avec les tests.
Avec une attestation.
Il y a quand même un risque encore. Comment vous pouvez vous prémunir complètement de l'importation, si je puis dire, encore de cette souche?
Nous faisons tout pour empêcher le variant de rentrer et de diffuser sur le territoire. Le 20 décembre, je le disais, nous avons arrêté totalement les passages entre la France et l'Angleterre. Ce n'était pas arrivé dans l'histoire.
Non, mais aujourd'hui, il y a des gens qui passent.
Pendant 48 heures, le temps au niveau européen de mettre en place des mesures permettant de garantir la sécurité des personnes. C'est-à-dire que toute personne, imaginez un ressortissant français qui était à Londres, qui souhaite rentrer sur le territoire national, il doit présenter les résultats d'un test négatif réalisé avant le départ, pas en arrivant, avant le départ. Si le test n'est pas négatif, il ne peut pas rentrer sur le territoire national. Il ne peut pas.
Il y a des
nous
contrôles
avons également des réseaux de... Bien sûr. Et nous avons également mis en place des réseaux de surveillance sur le territoire national. Et donc, nous mettons tout en œuvre pour empêcher la diffusion.
Ça vous inquiète cette, quand on parle avec des gens au ministère de la Santé, lorsqu'on parle avec pas mal de spécialistes, on sent cette inquiétude. Vous êtes inquiet par l'arrivée de cette nouvelle souche de virus, ce variant ?
Mais c'est le même coronavirus dans les symptômes qu'il donne. Il n'y a pas plus de cas graves. Le virus est a priori sensible au vaccin, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
Ça aussi,
mais il est plus contagieux. Mais il est plus contagieux. Donc dans la mesure où il est plus contagieux, et on voit la situation anglaise, on voit la situation écossaise, je ne veux pas que nous vivions cela en France, donc nous nous donnons tous les moyens pour l'empêcher.
Vous avez utilisé un mot, la précaution en tant que ministre de la Santé. Est-ce qu'il faut du coup se préparer à des mesures plus restrictives en termes de confinement ? On parle d'un troisième confinement en France face peut-être justement à l'arrivée de ce variant et cette diffusion large.
Et avec
large.
Les données que vous allez recevoir donc, ces jours-ci sur l'effet de la fin d'année et la situation de l'épidémie, est-ce qu'on va effectivement vers une restriction ?
Nous sommes à un niveau de circulation élevé du virus dans le pays, 18 000 cas en moyenne par jour, c'est beaucoup. Une pression sanitaire qui reste importante, plus de 1 000 hospitalisations par jour. Le nombre de malades en réanimation dans nos hôpitaux ne baisse plus depuis maintenant au moins 2 à 3 semaines. Il reste aux alentours de 2600 malades, ça veut dire une pression sanitaire qui est forte. Cela a justifié que nous prenions déjà des mesures la semaine dernière et hier. La semaine dernière dans 15 départements, hier dans 8 autres départements, dans lesquels le couvre-feu a été avancé, vous le savez, à 18h, ce qui montre qu'à chaque fois qu'il y a lieu de prendre des mesures pour bloquer la circulation du virus ou freiner l'épidémie, nous les prenons. Et notamment dans des territoires, les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, PACA, qui sont des territoires qui ont payé déjà un lourd tribut à l'épidémie, souvenez-vous, et pendant la première et pendant la deuxième vague.
Et qui bascule effectivement aujourd'hui. On se retrouve avec le ministre de la Santé pour savoir si d'autres mesures plus restrictives vont bientôt être adoptées. A tout de suite.
10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Olivier Véran, ministre de la Santé. On entend souvent cette formule, on fait tout pour éviter, on a écarté l'idée de, mais on ne s'interdit pas de. C'était encore ce que disait Jean Castex donc jeudi. Donc on sent bien que vous nous préparez à des mesures nouvelles qui ne sont pas agréables. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, garantir qu'il n'y aura pas de confinement nouveau ?
D'abord, vous rappelez que nous ne sommes pas en confinement, mais qu'il y a des mesures importantes qui freinent et qui pénalisent le quotidien des Français dans leur vie de tous les jours. Les lieux culturels, les activités sportives sont fermés. Il y a un couvre-feu à 20h, à 18h.
Est-ce qu'il va s'étendre sur l'ensemble du territoire ? Est-ce qu'il peut s'étendre ?
On ne parle pas d'une situation neutre où la vie aurait retrouvé son cours. Ensuite, nous proportionnons toujours les mesures à la charge sanitaire et à la pression sanitaire sur les hôpitaux, en médecine de ville, mais également lorsque nous voyons qu'il y a, je dirais, une dérive de l'épidémie qui repartirait à la hausse. Nous ne voulons pas revivre cela et donc nous prenons des mesures qui sont proportionnées en anticipation. Vous posez la question... Je vais vous répondre, Mickaël Darmon. Lorsque nous avons décidé, la France a été l'un des pays européens à décider en premier lieu de mettre en place un confinement strict. C'était au mois de novembre. Ça a été efficace. Nous avons pu freiner la deuxième vague épidémique qui, depuis, est sur un plateau, je le disais, un plateau élevé, là où la plupart des pays qui nous entourent ont dû, je le dis, en catastrophe, décider un confinement juste avant Noël. L'Allemagne est confinée, l'Angleterre est confinée, l'Écosse est confinée, les Pays-Bas sont confinés. Donc, la plupart des pays autour de nous rencontre une situation sanitaire qui est pire que la nôtre aujourd'hui, qui est pire que la nôtre. Je regardais, il y a en Allemagne plus de 1000 morts par jour. Il y a en Angleterre plus de 1000 morts par jour. L'Angleterre a enregistré en l'espace de 48 heures l'équivalent de la mortalité routière annuelle de la France. Cela ne veut pas dire que nous soyons tirés d'affaire, je le disais, et s'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires, c'est si nous constatons que le virus reprenait une course folle sous la forme d'une vague, ce qui n'est pas le cas à l'heure à laquelle je vous parle, même si je vous le redis, nous sommes plutôt sur une croissance lente de la circulation du virus et que nous prenons des mesures proportionnées, comme nous l'avons toujours fait dans les territoires où c'est nécessaire.
Donc cette semaine, vous allez avoir effectivement des données qui seront celles du réveillon, entre autres. Vous aurez aussi un rapport du comité scientifique sur l'efficacité du couvre-feu. Quand on a écouté Jean Castex, on a quand même bien compris que peut-être des nouvelles mesures plus contraignantes vont être annoncées.
Mais si on dit peut-être, n'allez pas croire.
C'est ce qu'il.
Oui, mais n'allez pas croire que nous aurions déterminé un plan d'action arrêté pour la semaine prochaine, dont nous ne parlerions pas parce que nous attendrions un moment plus propice. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, absolument pas. Quand on dit qu'on ne s'interdit rien, Si demain, mardi, mercredi, nous devions assister, je ne sais pas, je n'ai aucun indicateur permettant de le penser, et tant mieux à ce stade. Mais si nous devions constater qu'il y avait à nouveau une croissance épidémique forte avec une pression sanitaire, évidemment que ça emporterait des conséquences sur les décisions que nous prenons. Nous avons toujours pris et nous continuerons de prendre les mesures qu'il faut au moment où il faut les prendre pour protéger la santé des Français.
Et Olivier Véran, est-ce que le nouveau variant ne change pas la donne? Est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures préventives quand on voit comment il a explosé?
Mais nous en prenons, c'est ce qu'on nous dit.
Mais peut-être davantage. On voit par exemple qu'il circule manifestement beaucoup chez les jeunes enfants. Est-ce qu'il faut envisager d'étendre les vacances de février, par exemple, pour empêcher qu'il n'explose, ce qui reviendrait à fermer les écoles quelque temps?
Je le redis, la France a fait un choix, et qui est un choix que non seulement je valide, mais dont je suis fier pour mon pays, qui est de maintenir l'éducation de nos enfants. Il y a des pays européens, d'Europe occidentale, et des pays qu'on cite souvent en exemple pour montrer comment en France on serait mauvais et comment les autres seraient bons, pardon pour la pointe d'ironie, mais qui n'ont quasiment pas rouvert leurs écoles depuis le mois de mars dernier.
Rallonger les vacances d'une semaine, ce n'est pas une fermeture définitive, Olivier Véran.
Est-ce qu'on rallonge les vacances?
Je vous dis que nous sacralisons, nous sanctuarisons l'école, parce que l'éducation est fondamentale pour notre pays. Donc il n'y a pas lieu à ce stade d'envisager de fermeture des écoles. Par contre, lorsque vous dites que nous, est-ce que nous prenons suffisamment de mesures, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons organisé un programme de dépistage du virus encore plus puissant que celui qui avait été mis en place auparavant, avec des réactions graduées. Et si nous devions identifier une situation, s'il devait y avoir une circulation plus importante du virus chez les enfants, nous serions en mesure de le démontrer. Et alors, évidemment, nous pourrions discuter. Mais à ce stade, je vous le dis, il n'y a pas lieu de l'envisager.
Alors, la question également sur, la campagne de vaccination qui va s'accélérer, tel qu'on vous entend, tout simplement, où peut-on s'inscrire pour se faire vacciner? Les cabinets médicaux sont submergés de questions à ce propos. Où peut-on s'inscrire tout simplement pour se faire vacciner quand on est maintenant considéré comme pouvant l'être vacciné hors EHPAD?
Nous l'avons annoncé avec le Premier ministre Jean Castex jeudi dernier en conférence de presse. Cette semaine, jeudi 14, il y aura un site internet qui sera ouvert permettant de cliquer de façon très simple, d'identifier sur une carte de France sa région, de cliquer sur sa région, d'identifier la liste des centres de vaccination. Il y en a beaucoup. Nous sommes à près de 200 centres ouverts. Nous sommes sur un rythme d'ouverture des centres de vaccination plus rapide encore que celui qui avait été envisagé la semaine dernière, parce que les élus se mobilisent, parce que les médecins se mobilisent, les ARS se mobilisent, les préfectures se mobilisent, et c'est tant mieux. Et il y aura la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Nous travaillons également à la mise en place d'un numéro de téléphone. Je voudrais en parler une minute pour anticiper quand même les choses.
Allez-y.
On peut parfaitement imaginer, les Français peuvent comprendre, que quand bien même nous disposons d'outils numériques et d'outils téléphoniques de grande qualité, si vous avez, on s'adresse là à 5 millions de Français qui sont âgés de 75 ans et plus. Si les 5 millions de Français appellent le même moment, au même jour,
il y a des heures d'attente en Allemagne.
Vous allez titrer en disant c'est un scandale, le scandale des attentes téléphoniques. Je veux rassurer les Français, dès lors que nous ouvrons la vaccination aux 75 ans et plus, nous le disons aussi, cette vaccination elle sera progressive, elle s'étendra sur plusieurs semaines à mesure que les doses de vaccins arriveront. Et oui, nous travaillons un système téléphonique qui permettrait d'éviter d'avoir des embouteillages au téléphone. C'est jusqu'à 6 heures d'attente, je crois, à Berlin, pour pouvoir contacter. Pas de panique. Je le dis par anticipation, pas de panique. Il n'y a pas de perte de chance. Inutile de se connecter à 8 heures du matin sur la ligne téléphonique. Les choses vont s'organiser en bon ordre. Nous avons, à la différence de nos voisins allemands, 10 fois plus de centres qui seront opérationnels pour pouvoir vacciner en proximité les personnes âgées. Tout le monde est mobilisé, tout le monde est sur le pont à l'heure à laquelle je vous parle. Nous avons beau être dimanche, il y a un certain nombre de centres de vaccination hospitaliers ou en ville qui demeurent ouverts pour continuer à protéger les soignants et les publics prioritaires dans les EHPAD. Cette mobilisation, elle se poursuivra semaine après semaine dans notre pays. Nous savons faire et nous réussirons.
Est-ce que les médecins de ville auront le droit de venir dans ces centres, s'approvisionner en doses pour vacciner dans leur cabinet et comme ça démultiplier la vaccination? C'est une de leurs demandes.
J'étais hier avec le Premier ministre à Tarbes et notamment nous sommes allés dans une maison de santé, un centre qui est tenu par des libéraux. Je l'en avais vu également en région Île-de-France au début de la semaine, où on voit que les soignants libéraux sont pleinement mobilisés et je les en remercie dans cette campagne vaccinale. Ils ont d'ailleurs eux-mêmes souhaité plutôt travailler de façon regroupée dans des centres. Ça fait plus sens que d'avoir des fioles de vaccins ouvertes avec 5 ou 10 doses, selon que ce soit du Pfizer ou du Moderna, et des risques de perdre du produit. On ne peut pas se permettre de gaspiller
Médecin qui a un cabinet ne pourra pas vacciner aujourd'hui.
Un médecin qui a un cabinet pourra vacciner dans un centre de vaccination. Il est même fortement invité à le faire. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Nous aurons, encore une fois, 10 fois plus de centres que la plupart de nos voisins pour éviter à des Français de 80 ans de faire 3 heures de queue dehors en plein hiver et de parcourir 150 km pour se faire vacciner. Pardonnez-moi, mais quand je disais ne pas confondre vitesse et précipitation, c'était pas l'éloge de la lenteur, c'était dire nous avons cet objectif, à la fin du mois de janvier, nous aurons proposé le vaccin, nous aurons vacciné plus d'un million de Français.
Les EHPAD seront vaccinés quand ?
Les EHPAD ont commencé à être vaccinés le 28 décembre. La montée en puissance se fait cette semaine dans plusieurs régions de France et dans toute la France la semaine prochaine, de manière à ce que nous ayons une campagne éclair de vaccination dans des bonnes conditions où chaque personne aura pu donner...
Presque à se demander pourquoi le président de la République d'un coup s'est agacé, puisque finalement tout est bien agencé et tout avance. Vous avez défini des centres effectivement par département. Mais alors on a le sentiment aussi que les bonnes volontés des élus sont un peu découragées parce que ça n'a pas l'air de correspondre. Ils proposent des locaux, vous en proposez d'autres. Pourquoi ne pas s'appuyer sur les propositions des élus ? Ils vous le font remarquer très régulièrement avec beaucoup de virulence et
Ça dépend, Mickaël Darmon, si les élus sont en campagne ou s'ils ne le sont pas. Pardonnez-moi, hier à Tarbes, j'ai rencontré le maire de Tarbes, le président du conseil départemental, la présidente de région. Un centre a été mis en place avec l'aide des équipes départementales.
Vous pensez qu'ils sont plus en campagne électorale qu'en campagne de vaccination ?
Certains présidents de région sortants qui sont dans l'outrance, je le dis, d'autant que nous travaillons ensemble depuis maintenant 2 mois à la stratégie vaccinale, qui sont concertés semaine après semaine. Je n'ai même pas envie de les citer, vous savez très bien de qui je veux parler. Et certains élus qui ne sont pas forcément des présidents de région sortants, certains maires de grandes villes qui sont peut-être dans l'idée ou l'espoir ou le fantasme d'une campagne et qui en profitent pour se faire un coup de com'. Honnêtement, je vous dis, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais je travaille avec des élus de tous bords, j'en appelle beaucoup. J'en ai même appelé le 24 décembre à 21h, qui était très surpris de recevoir un coup de fil du ministre de la Santé, pas pour les embêter, mais pour continuer de les concerter jusqu'à la dernière minute.
Non, Rottner, ce n'est pas un opposant, il a été très en soutien du président Macron.
Mais parler d'un scandale d'État au bout de 5 jours, ne me dites pas qu'il n'avait pas trouvé la formule avant même que nous commencions à vacciner. Mmh. Vous savez très bien comment les choses se passent.
Mais vous dites que ces vaccinodromes, Olivier Véran, ne servent à rien. Ces vaccinodromes qui s'ouvrent à droite ou à gauche ne servent à rien, finalement.
Mais ce ne sont pas des vaccinodromes qui s'ouvrent à droite ou à gauche. Il y a, regardez, je vous donne l'exemple d'hier dans les Hautes-Pyrénées où nous étions. Le président de département, les maires, la présidente de région, le préfet, l'ARS, les médecins libéraux et les médecins hospitaliers, les soignants, se sont organisés dans des cellules départementales à l'échelle du département où ils réfléchissent. Ils disent alors, là, il va nous falloir combien de centres de vaccination pour pouvoir protéger la population en proximité ? Ils ont dit, 6 centres, ce sera très bien. Ils se sont concertés. Ils ont dit, là, ce sera un centre hospitalier. Là, ça va être une maison de santé. Là, je peux mettre à disposition les locaux de ma mairie. Le département, il me le disait hier, le président du département, écoutez, on a besoin de renforts pour pouvoir faire tourner ces centres. J'ai mis à disposition des médecins du département et des infirmières du département pour aider à organiser la campagne vaccinale. N'allez pas croire qu'il y aurait une espèce de conflit ou d'incapacité de se parler dans les territoires. Ce n'est pas parce que... un tel ou un tel, encore une fois, décide de faire un coup d'éclat dans la presse, que ça reflète la situation dans les territoires. Ce n'est pas vrai. Je serai cette semaine en déplacement à Troyes, où le maire de Troyes est le président de l'Association des maires de France. Je me suis entretenu avec lui toute la semaine. Il est très heureux de m'accueillir. Je suis très heureux d'aller le voir. Je discute également avec des maires, quel que soit le bord politique. J'étais hier avec le maire de Nancy par SMS pour continuer de discuter, qui me proposait d'y aller. Les choses se mettent en place en concertation et de bonne manière. Encore une fois, je déplore, mais c'est ainsi, je déplore qu'on fasse de fausses polémiques, de mauvaises presse pour, encore une fois, avoir un encart dans un journal du dimanche.
Parfois, c'est plus qu'un encart.
Au détriment, de l'intérêt collectif,
plusieurs antennes,
de la confiance des Français qui est nécessaire et surtout de la réalité telle qu'elle est vécue par la plupart des élus, à savoir que les choses se passent bien.
On va se retrouver pour parler également de la réalité de la campagne et stratégie de vaccination. A tout de suite.
10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et surtout Olivier Véran, ministre de la Santé, qui est notre invité. Cécile Cornudet sur la stratégie de vaccination qui continue.
Oui, pourquoi on n'ouvre pas la vaccination à des publics particulièrement exposés ? Jean-Michel Blanquer a dit qu'il faudrait que les profs puissent l'être, puisque les écoles restent ouvertes, comme vous l'avez dit, et sont face aux enfants. Les premières lignes, les policiers, pourquoi c'est que des critères d'âge ?
Continuité de l'État.
Nous commençons par vacciner les personnes qui, hélas, ont le plus de risques de mourir si elles contractent le virus. Une personne âgée en EHPAD a 30 fois plus de risques de mourir qu'une autre. Des personnes âgées de 75 ans et plus, non, quel que soit leur état physique, elles peuvent être parfaitement fringantes, hein, sont beaucoup plus exposées au risque de formes graves
et pulmonaires. Quand est-ce qu'on saura si le vaccin empêche la circulation du virus et du coup, est-ce qu'il faudra changer de stratégie ?
On a des premiers indicateurs sur le vaccin Moderna, mais comme le mécanisme est le même que le Pfizer, j'ai toutes les raisons d'espérer que ce soit le cas et que le vaccin puisse bloquer aussi la transmission, tout ou partie. Nous le saurons bientôt. Il faut pouvoir étudier. C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui sont vaccinées contractent des formes bénignes de la maladie ou non ? Il n'y a que le temps qui peut nous le dire.
Mais il ne faut pas anticiper, du coup.
Et ce sont des études mondiales qui ont cours. Nous vaccinons en priorité les personnes qui meurent du virus le plus souvent lorsqu'elles le contractent. Enfin, qui peut reprocher de vouloir sauver des vies ? D'ailleurs, c'est une stratégie qui est quasiment unanimement appliquée dans le monde. Il y a certains pays qui ont une population beaucoup plus petite et qui donc ont réussi dans le même mouvement à vacciner un peu tout le monde, notamment l'exemple israélien. Mais sinon, regardez les grands pays européens, on vaccine en priorité les personnes qui...
Le principe que vous posez, bien évidemment, il est louable et important, mais pourquoi ne pas
louable,
au même moment...
Il est censé,
important et essentiel.
Il est humain.
Pourquoi au même moment ne pas aussi élargir à cette partie de la population âgée aussi, mais qui, comme vous dites, est encore... fringante, peut aussi encore bouger et participe de l'immunité collective. Pourquoi ne pas avoir fait une stratégie globale ?
On va faire un calcul ensemble et vous allez comprendre. Il y a 1 million de personnes âgées en établissement collectif qui sont les personnes qui ont le plus de risques de faire des formes graves et de mourir du virus. 1 million de personnes. Il faut donc au moins 1 million de vaccins pour faire la première injection. Vous avez quelques 500 à 600 000 soignants âgés de 50 ans et plus qui eux-mêmes sont exposés dans leur profession et qui exposent aussi les personnes les plus fragiles qu'elles peuvent côtoyer dans le cadre de leur exercice professionnel. Ça nous fait donc déjà plus d'1,5 million de personnes à vacciner. À l'heure à laquelle je vous parle, nous avons 1,80 000 vaccins qui ont été livrés à la France. Il y en aura 500 000 supplémentaires. Ça fera donc 1,5 million. Donc nous vaccinons ces personnes-là. Et lorsque nous avons terminé cette vaccination, et avant même de l'avoir terminée d'ailleurs, nous ouvrons la possibilité aux 5 millions
Olivier
de Français de 75 ans et plus de se faire vacciner.
Olivier Véran, est-ce que c'est pour cette raison que l'Europe a commandé de nouveaux vaccins ? Parce qu'il en manquait ? Parce que vous souhaitez accélérer ?
Mais pardon, quel est... Je vois... par anticipation, un certain nombre d'élus probablement bien intentionnés qui ne manqueront pas dans 2 ou 3 semaines de nous faire le procès de la pénurie et de l'impréparation.
Mais on ne fait pas que reporter les questions des élus. Hein. C'est
on voit bien que la chambre de diffusion, ce sont les chambres parlementaires et autres collectivités. Les vaccins, ils sont produits jour et nuit dans tous les laboratoires du monde qui le peuvent. La France a elle-même identifié des laboratoires qui, à la base, ne travaillent pas avec les labos qui ont trouvé les vaccins, mais qui sont capables désormais de commencer à produire ces vaccins de manière à augmenter le rythme de production. Et donc, nous avons fait le choix d'avancer, non pas tout seul la France, mais d'avancer à 27 avec l'Union européenne pour pouvoir commander les vaccins. Nous avions la garantie de disposer de 78 millions de doses si tous les vaccins que nous avons achetés sont validés par les autorités sanitaires d'ici à l'été. Ça sera sans doute plus grâce à la bonne nouvelle qui est tombée de la Commission européenne. C'est encore une fois, tant mieux.
Combien de les vaccins plus ?
Ça pourrait être, on pourrait monter quasiment jusqu'à 100 millions de doses dans les 6 prochains mois. Donc c'est forcément une excellente nouvelle parce qu'on a envie de protéger les populations le plus vite possible et dans les bonnes conditions. Donc n'ayez pas d'inquiétude sur la détermination de la France, de l'Europe à identifier tous les vaccins disponibles, à les acheter pour les mettre à disposition.
Mais est-ce que c'est justement pas cette stratégie centralisée de l'Europe qui a posé problème ? Parce qu'au début, la France a commencé à parler directement avec les fabricants de vaccins. Puis après, il y a eu la stratégie... décider, imposer, c'est selon, de la centralisation européenne. On a entendu le patron de Moderna justement critiquer très fortement ce choix en disant c'est ce qui a considérablement ralenti le processus.
Non, c'est ce qui a fait peut-être baisser les prix pour Moderna, ce qui explique peut-être les critiques qu'il porte. Enfin ça l'engage, pardon. Ça n'a certainement pas ralenti le processus. C'est la France. J'étais à la première réunion avec l'Italie, avec les Pays-Bas, avec l'Allemagne. À 4, nous sommes allés voir un premier laboratoire, AstraZeneca, pour lui dire « nous souhaitons passer des commandes ». Et nous avons très vite identifié, avec Agnès Pannier-Runacher, avec Clément Beaune, sous l'égide du président de la République, bien sûr, que si nous étions 27, nous serions plus forts pour négocier, non seulement plus de doses, mais à des prix plus faibles et dans des délais plus courts. Nous avons été ainsi plus efficaces. Je voudrais aussi vous dire une chose. Il y a un deuxième vaccin, Moderna, qui vient d'être validé par les autorités sanitaires européennes et françaises. Nous aurons une livraison de 50 000 premières doses, demain, Elles seront validées très vite par les pharmaciens français. Et d'ici à mercredi, nous allons les dispatcher, pardon pour l'expression, dans les régions françaises et dans les villes françaises où la circulation du virus est la plus intense. Nous faisons le choix de prioriser ces territoires où l'épidémie fait rage.
Donc, la grande
donc,
région
il y aura
est.
Des doses en particulier à Nancy, à Strasbourg, à Besançon, à Nice, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, un certain nombre de villes se verront attribuer ces premières doses de Moderna pour intensifier la vaccination des publics prioritaires partout où le virus circule le plus. Donc, vous voyez, on a aussi cette capacité, et c'est une adaptation qui nous est rendue possible par le fait que les vaccins, quand ils arrivent plus vite, nous permettent de réagir plus vite.
Et qu'est-ce qui se passe avec AstraZeneca ? Pourquoi on n'a pas encore sa demande d'autorisation européenne ? Vous avez des explications ?
AstraZeneca a mis en place une étude clinique de qualité, mais où il y a eu un écart dans le protocole d'essai monté par le laboratoire, qui fait qu'ils ont publié deux résultats qui n'étaient pas l'un et l'autre à pleine ligne. Donc ils ont dû reprendre à la demande des autorités américaines et européennes une partie de leur étude. J'ai bon espoir...
Donc ils vont le faire.
Dans les prochaines semaines, il y a un dépôt d'une demande d'autorisation auprès des autorités européennes. Ce serait une formidable nouvelle. Nous disposerions alors de quantités très importantes de ce vaccin permettant d'accélérer encore la campagne de vaccination. Dire que nous savons aller vite dans notre pays. Nous avons quasiment atteint les 40 000 vaccinés par jour vendredi, en fin de semaine. Alors il y en a moins le week-end, mais on va dépasser les 100 000 vaccinations.
Pourquoi on n'a pas de chiffre journalier sur l'application ?
Vous allez
on a
en faire,
le chiffre
vous avez...
des
vous,
contaminations.
Vous l'aurez au cours de la semaine. Il y a un système d'information qui a été mis en place lundi dernier et les équipes qui vaccinent de 8 h du matin à je ne sais quelle heure le soir nous ont dit écoutez, les premiers jours, laissez-nous nous consacrer. La vaccination plutôt que de nous mettre derrière un écran. On a des remontées par phoning, par les agences de régionales de santé.
On entend toutes vos explications, effectivement, et à chaque fois qu'on vous avez le sentiment d'être mis en procès sur votre rapidité, on sent que ça vous agace. Comment vous battez quand même en brèche ce discours
permanent ? La seule chose qui m'agace, c'est de voir que le virus circule dans notre pays. Le reste,
j'entends
vous savez,
bien,
c'est une question d'explication,
mais par
d'écoute.
Par rapport à l'explication du gouvernement et à sa crédibilité, comment vous battez en brèche cet argument qui s'est installé sur le fait que le discours en fait est adapté à la pénurie, comme pour les masques, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment tous les vaccins, alors on dit on va prendre notre temps, on va faire la lenteur. Le programme était prévu pour démarrer le 11 janvier. Comment vous répondez à ces critiques ?
Un, je ne m'adapte pas à la pénurie. Deux, la pénurie c'est quand vous manquez de quelque chose qui pourrait être disponible mais dont vous ne disposez pas. Là, nous sommes en phase de production de vaccins qui, à mesure qu'ils arrivent, sont mis à disposition. Pas plus lentement que ce qu'on pensait. On va avoir plus de vaccins à l'arrivée s'ils sont validés par les autorités scientifiques. Encore une fois, ce n'est pas le fait des États, encore moins du politique. Nous aurons plus de vaccins dans les 6 premiers mois que ce qui avait été initialement escompté, et c'est tant mieux. Michaël Darmon, je n'ai aucune difficulté à vous dire que si nous avions 60 millions de vaccins disponibles, utilisables par les réseaux classiques de distribution des professionnels de santé, nous vaccinerions la totalité de la population dans un délai extrêmement, extrêmement bref. La vaccination antigrippale, lorsque nous vaccinons le premier jour 1,5 million de doses distribuées par les pharmacies, au bout d'une semaine, 5 millions de Français vaccinés, on sait faire. On sait faire. Lorsque vous aurez les 600 centres qui seront ouverts là, très prochainement et qui disposeront de vaccins, potentiellement en une journée, on est capable de faire un nombre de vaccinations que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Et que, si je vous dis que d'ici à la fin du mois de janvier, nous aurons vacciné 1 million de Français, vous faites le calcul dans votre tête et vous voyez qu'on va tourner en moyenne au moins à 40, 50, 60, 70 000 Français vaccinés par jour. Donc on sera sur un rythme de vaccination qui sera même supérieur au rythme moyen de nos voisins. Je n'ai pas de difficulté avec cela. Ce que j'ai revendiqué, c'était la première semaine entre le Noël et Nouvel An où nous n'avions pas un réseau de professionnels de santé complètement disposé, parce que c'est tout à fait normal. Chacun peut le comprendre avec l'année qu'ils ont passée dans les EHPAD, avec un public prioritaire, que nous décidons de vacciner en EHPAD et pas de faire déplacer dans des grands centres régionaux.
Alors,
c'est tout. Et il n'y a aucune perte de chance pour la santé des Français. Et il n'y a aucune perte de chance pour que nous soyons au rendez-vous de la vaccination des Français
alors,
à la fin du mois, vous verrez.
On vous écoute avec attention. Et alors, donc on se repose la question. C'est qu'à là, pourquoi ce coup de colère donc du président de la République qui le met en scène en disant ça va pas assez vite, la bureaucratie a freiné. D'ailleurs, qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Est-ce que vous avez le sentiment que la fameuse administration a freiné des initiatives, des processus, de la logistique ? Quel a été le problème ? Parce qu'il a bien fallu quand même que le président de la République réagisse par rapport à quelque chose.
D'abord,
Prends pas comme ça des colères.
D'abord, je prends le point là-dessus. Manque de clarté peut-être dans la communication et dans l'explication de la campagne vaccinale et pourquoi nous le faisions. Nous avons eu un débat à l'Assemblée nationale. Nous avons eu un débat au Sénat. Et nous avons présenté la stratégie devant l'Office parlementaire des choix scientifiques qui a encore hier dit
validait
Office parlementaire composé des deux chambres, Sénat et Assemblée, et composé pour 2/3 de parlementaires de l'opposition qui ont dit nous, la stratégie, elle nous va. On l'a validée à l'époque. On la valide toujours aujourd'hui. Mais sans doute, davantage d'explications eussent été nécessaires et je prends personnellement le point. Deuxièmement, nous avons sans doute internalisé l'espèce de défiance générale dont on parlait en permanence sur les plateaux et dans les réunions de famille sur les Français n'ont pas envie de se faire vacciner et donc la volonté peut-être de rassurer. Troisièmement, le manque d'expérience par rapport à ce vaccin, mais au bout d'une semaine, des millions de personnes ayant été vaccinées, on a eu plus d'assurance et les scientifiques eux-mêmes qui nous disaient soyez prudents, nous ont dit, on peut accélérer. Et je l'ai annoncé en début de semaine, nous accélérons, nous simplifions et nous amplifions la campagne vaccinale. Ce que nous avons fait, c'est qu'on n'a pas changé la stratégie, la priorisation. On a dit, on est capable de traiter plusieurs priorités d'un coup. Et le président de la République a eu raison de le demander. Et je suis très à l'aise avec sa demande, puisque c'était la demande que je portais également.
On se retrouve dans quelques instants pour évoquer le nouveau matin français, expression d'Emmanuel Macron.
10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Olivier Véran, ministre de la Santé. Cécile Cornudet.
Oui, bonjour. Olivier Véran. On commence à entendre parler d'une pénurie de seringues et d'aiguilles. Qu'est-ce que vous faites pour que ce ne soit pas le cas?
Alors, les hôpitaux ont des seringues et des aiguilles. Les EHPAD ont été livrés en matériel pour voir aux injections. Et les seringues et les aiguilles arrivent progressivement en France à mesure qu'on en a besoin. Il n'y a pas de pénurie de seringues.
De bonne dimension, parce qu'il y a eu un sujet sur la dimension des aiguilles. Je ne sais pas.
Non, mais j'ai entendu que lorsqu'un hôpital estime que quelqu'un qui va faire une injection estime que l'aiguille est peut-être trop courte, on a le droit à parfois des reportages à la radio. Écoutez, pardon.
On ça parle vous là agace, d'une
ça vous ça agace. M'agace pas, je suis extrêmement serein par rapport à ça. Au contraire, on parle d'une injection intramusculaire, tout ce qu'il y a de plus classique d'un vaccin, comme pour la grippe. Nous savons faire, les soignants savent faire. Je n'ai pas besoin de rédiger des circulaires pour expliquer aux soignants que s'il reste des doses à la fin de la journée dans le flacon, ils peuvent vacciner d'autres personnes que des personnes prioritaires parce qu'ils ne vont pas jeter du produit. Je n'ai pas besoin d'expliquer aux soignants que lorsqu'ils ont la possibilité de faire cette fameuse sixième dose, quand il reste suffisamment pour faire une sixième dose dans le flacon, ils peuvent l'injecter. D'ailleurs, les autorités sanitaires nous ont dit oui. Enfin, pardon.
Pourtant, il a fallu 45 pages pour expliquer comment on recueille le consentement, comment
on vaccine.
Mais
nous avons répondu aux questions, Mickaël Darmon, qui étaient posées par les EHPAD. Quand vous avez des directeurs d'EHPAD qui vous posent des questions précises, vous répondez aux questions précises. Pour autant, vous aviez aussi un document qui fait une page et demie. Pardon pour j'ai entendu que un sénateur,
oui.
Il n'est pas destinataire, il le sait très bien, il continue ce matin dans le JDD, je le vois mardi, je lui demanderai de m'expliquer, de me montrer cela, parce qu'il y a manifestement un dysfonctionnement à l'échelle de l'EHPAD, si c'est le cas, mais je ne peux pas l'imaginer. Nous envoyons des documents.
Alors pourquoi, selon vous, il a brandi ce document? Parce qu'il fait de la politique, il voulait simplement...
Réponse est dans votre question, Mickaël Darmon. Je n'ai pas besoin de m'arrêter plus avant sur le point.
Je vois ça dans la lueur de votre regard, vous avez tellement envie de lui répondre, allez-y.
Pardonnez-moi, mais aucun résident d'EHPAD ne se voit destinataire. Allons, soyons sérieux, 2 minutes. Ne prenons pas les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas insultant vis-à-vis du ministre, c'est presque insultant vis-à-vis des Français. Aucun résident d'EHPAD de 85 ans en perte d'autonomie ou 85 ans ou autre ne reçoit 58 pages de documents lui expliquant comment organiser la logistique de la vaccination, avec quel matériel d'injection. Enfin, ce n'est pas le sujet. Voyons, en revanche, que les directions des EHPAD nous aient posé des questions auxquelles nous y ayons répondu. Il y a toujours, vous savez, dans ce type de trucs administratifs, deux sortes de documents. Le document complet, c'est comme la notice pour votre machine à laver. Vous savez, vous avez toujours un document qui est extrêmement complet, puis vous avez un tableau à la fin qui résume ce que vous devez savoir. Voilà. Quand on veut faire la polémique, on peut en trouver toujours. Et certains sont devenus des professionnels pour cela. La maire de Paris nous a donné aussi un exemple ce matin dans le JDD.
Ça continue donc effectivement à...
Non, mais je veux dire, c'est pas sérieux. Est-ce que vous croyez, honnêtement, que la priorité en ce moment, alors que nous avons un pays qui est à l'arrêt depuis un an, que nous avons des morts tous les jours, que nous avons des soignants qui se battent avec leurs blouses blanches, leurs masques et leurs armes pour pouvoir sauver des vies, alors que tous les soignants sont mobilisés pour commencer à vacciner tout le monde, que les élus de terrain font le job,
Olivier Véran, ils font le boulot avec nous. Oui.
Est-ce que vous trouvez que c'est à la hauteur de vue qu'on peut attendre d'un élu qui se prête des intentions nationales que de commencer à tirer à tout va sur la politique du gouvernement pour essayer de faire parler de lui? Je ne le crois pas, et vous ne me verrez jamais, que je sois dans la majorité ou l'opposition, avoir ce type de comportement.
Mais vous
jamais.
Êtes aussi issu de la politique, vous connaissez ça par cœur. On est à un an de l'élection présidentielle, on voit bien qu'au fond, c'est cette pandémie et cette campagne présidentielle eh bien, va être sous le haut patronage du Covid-19. C'est ce que ça dit aussi.
Et la France n'aura pas à rougir parce que la France a mis en place le chômage partiel, parce que la France ne laisse aucune activité économique sur le bord du chemin, parce que la France a pris des décisions qu'il fallait. De manière courageuse, le président de la République a pris toujours les décisions courageuses.
Quand on dit que les crises préparent l'alternance, vous sentez que vous allez subir ce principe ou pas ?
En décidant de confiner avec le quoi qu'il en coûte, parce que nous n'avons pas lésiné à la dépense pour protéger les Français, que nous continuons à le faire, que nous sommes le pays européen qui teste le plus, et plus personne n'en parle, parce que nous sommes le pays qui teste le plus, que les tests sont gratuits, que le vaccin est gratuit.
Olivier Véran, vous parlez de décision courageuse, est-ce qu'il faudra prendre une autre décision courageuse, celle d'un passeport sanitaire, immunitaire, pour pouvoir demain accéder à certains lieux, à des restaurants, à des salles de spectacle, voyager?
La vaccination, elle n'est pas obligatoire, elle est fortement incitée. Et nous verrons avec le recul nécessaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe chez les gens qui sont vaccinés. Il est évident que si demain, on se rend compte que si vous êtes vacciné, ben vous n'attrapez plus le virus. Vous n'attrapez plus le virus. Et si on se rend compte que malgré tous nos efforts, il y a encore une partie de la population qui attrape le virus parce qu'il n'est pas voulu se faire vacciner, il y a un moment donné, il y aura une pression qu'on pourra comprendre de la part
économique,
de l'opinion.
Totalement.
Mais ça ne s'appelle pas un passeport vaccinal. La première question à laquelle j'aurai à répondre aux Français, dès que j'aurai la réponse, c'est qu'est-ce qui se passe dans un EHPAD quand les soignants et les résidents ont été vaccinés? Est-ce que la vie peut reprendre? Est-ce qu'ils peuvent recevoir de leur famille comme auparavant? Est-ce qu'ils peuvent sortir? Est-ce qu'ils peuvent se retrouver pour partager des repas? Est-ce que la vie reprendre?
Pour vous, dans combien de temps
disparu?
Dans combien de temps on enlèvera ces masques pour vous?
Depuis un certain nombre de mois.
Pour vous, dans combien de temps on enlèvera ces masques? Une projection que vous faites comme ça?
Je ne peux vous le dire parce que je ne fais jamais de prédiction. Ce que je peux vous dire, Mickaël Darmon, c'est que le jour où on pourra enlever ces machins là et qu'on pourra se retrouver, se faire la bise, se serrer la main et retrouver ce qui fait que nous aimons vivre ensemble et que nous pourrons parler d'autre chose que du virus et que la peur se sera éloignée. Mais ce jour-là, ce sera un jour, je crois, très important qui fera date dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de l'humanité.
Alors rapidement, à propos de parler d'autre chose, Damien Fleurot.
Oui, mercredi, un séminaire du gouvernement pour parler peut-être d'autres sujets que la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a vraiment la place à parler d'autres sujets actuellement? Et la priorité des Français, on le voit, c'est la gestion de cette crise.
Il n'y a pas que la place pour parler d'autres sujets. Rien que dans mon ministère, la semaine dernière, nous avons mis en place le versement automatique des pensions alimentaires pour les familles monoparentales. Décision du président de la République suite au mouvement des Gilets jaunes. Ça a été mis en place le 1er janvier. Rien que la semaine dernière, nous avons mis en place le 100% santé depuis le 1er janvier. Vous ne payez plus, vous n'êtes plus obligé de payer. On vous proposera systématiquement
des
prothèses dentaires,
qui ont été
auditives,
au début du quinquennat, et
sans reste à charge. Oui, enfin, il ne suffit pas de prononcer une réforme, il faut aussi la mettre en place. Et la mise en place est poursuivie. Malgré cela, la semaine avant les vacances de Noël, à la demande du président de la République toujours, avec Elisabeth Moreno, nous avons mis en place les protections hygiéniques pour les femmes en situation de précarité. Chaque semaine, il se passe des choses dans notre pays. Il y a moins d'espace médiatique pour cela. Mais j'ai tous mes collègues du gouvernement, quel que soit leur secteur d'activité, travaillent d'arrache-pied pour continuer de réformer le pays.
Quand on entend dire le quinquennat est terminé, on est uniquement focalisé sur la gestion de la crise sanitaire. La campagne présidentielle aura lieu sous, une fois de plus, cette égide. Vous vous dites non, on va pouvoir continuer à réformer?
Mais hier, nous avons signé le contrat, ce qu'on appelle le contrat de plan État-Région avec la région Occitanie, qui n'est pas une alliée politique, mais c'est l'intérêt général qui prévaut, c'est très bien, ce qui permet d'investir dans l'économie de demain, qui permet d'investir massivement dans l'écologie. C'est le fameux plan de relance européen qui a été négocié, qui se déploie, et heureusement que la vie continue. On en parle moins, Mickaël Darmon, c'est vrai, et chacun peut le comprendre. L'opinion est saturée par ce qui fait l'actualité. Ce qui fait l'actualité depuis un an, c'est le Covid. Mais n'allez pas croire une seconde que l'ensemble du gouvernement ne soit pas pleinement mobilisé pour poursuivre les réformes.
Eh bien, c'est ce qu'on suivra ces prochains jours. Merci Olivier Véran, c'était le grand rendez-vous avec Olivier Véran. À dimanche prochain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.